Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute!
Marie m'avait aussi donné un conseil, tout simplement de dire pourquoi est-ce que vous souhaitez mon avis sur les violences policières. Une phrase. Et là, la personne ne va pas me répondre parce que t'es noire. Donc, voilà.
En ce moment au travail, dans les open space et à la cantine, des personnes noires sont sursollicitées parce que leurs collègues tiennent absolument à avoir leur avis sur les violences policières. Sur George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié par un policier qui le plaquait au sol en mai dernier, ou sur Adama Traoré, mort dans le Val d'Oise en 2016, après son interpellation par les gendarmes. La femme que vous venez d'entendre, on l'appellera Olivia, elle avait peur de ne pas savoir comment réagir si on lui demandait son avis sur tout ça. Elle travaille dans le service marketing d'une grosse boîte et c'est la seule métisse. Donc elle a demandé de l'aide à Marie Da Silva, que vous avez peut-être croisé sur Twitter sous le pseudo Black Yavel. Marie Da Silva, elle a un job qu'elle est probablement la seule à faire en France. Coach de survie pour les personnes racisées au travail. C'est comme ça qu'elle le définit. Racisée, c'est le terme beaucoup utilisé ces dernières années pour parler des personnes qu'on discrimine en les renvoyant à une couleur de peau. Ce mot entérine le fait que c'est le racisme qui fait naître l'idée de race. Tout ça pour dire, la spécialité de Marie Da Silva, c'est d'aider les personnes non blanches à élaborer des stratégies pour lutter contre les discriminations dans le monde du travail. Et c'est un énorme chantier. Différentes études montrent que le racisme augmente en entreprise et que les individus perçus comme noirs sont les plus exposés aux comportements racistes, d'après le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail. L'une des manières dont le racisme s'exprime, c'est à travers l'essentialisation. On vous réduit à votre couleur de peau. Il y a un exemple très parlant dans la série Insecure, d'Issa Rae. L'héroïne travaille dans une association qui aide les enfants de milieux défavorisés. Et l'équipe se rend compte que le logo est raciste. Elle, c'est la seule personne racisée et on lui demande de prendre position et de se battre contre le logo. Elle refuse et elle explique ensuite à un déjeuner qu'elle ne peut pas porter seule tous les sujets de discrimination et se retrouver à jouer la femme noire en colère.
Really? I have to speak up about every issue. Do you know how awkward that is? Hi, I'm Issa and I'm black and angry!
Un collègue gay lui dit « Eh ben c'est comme ça, moi je représente les gays et toi tu représentes les noirs. » Et Issa, elle répond « Eh ben j'ai pas envie d'être la voix de toutes les personnes noires. » Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'est demandé quel impact ça avait d'être essentialisé au travail, de se rendre chaque jour dans un endroit qui vous enferme dans une identité restreinte. Et comment répondre aux interpellations pour des débats sans fin. Et ce que ça fait d'affronter des stéréotypes sur qui on est censé être. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. Bon, Bonjour Marie Da Silva. Alors, dans votre activité de coach, vous parlez de survie au travail. Survie, c'est un mot qui est très fort. Pourquoi survie ?
Alors moi, je trouve que c'est un mot qu'il est intéressant d'utiliser parce que, par définition, j'estime qu'être une minorité dans un espace majoritairement blanc est déjà un exercice de survie en milieu hostile. C'est-à-dire que l'altérisation ne nous permet pas de vivre pleinement. Dans l'altérisation, on survit. Et c'est ce qui se passe quand on est la seule personne noire, la seule personne arabe ou la seule personne handicapée ou, par exemple, LGBT dans son espace de travail. Ça amène à des dynamiques d'altérisation et c'est pour ça que je parle de survie. On n'est pas plein dans ces espaces, on est plutôt dans une espèce d'identité contrariée. Un exemple d'identité contrariée, c'est ce qu'on appelle en fait le code switching. C'est-à-dire que à un moment donné, je parlais avec d'autres personnes noires et on a parlé d'un truc que seules les personnes noires connaissent, le rire du travail. Le rire du travail, c'est vraiment quand on vous fait la blague la plus raciste qui soit devant tout le monde et que vous n'arrivez pas à réagir. Et du coup, il y a cette espèce de rire gêné qui va sortir de vous parce que vous n'avez pas la force ou vous n'avez pas la possibilité de riposter. Le rire du travail, le rire du travail des personnes noires, c'est pas le même rire qu'elles ont chez elles. On est traité comme des accidents industriels. On est traité en fait comme des anomalies dans la matrice. Ce sont des espaces en fait qui ne nous attendent pas. Ce sont des espaces qui ne sont pas conçus pour nous et ce sont des espaces en fait qui ont conscience de leur exclusivité blanche et qui veulent la préserver. Et donc du coup, on veut savoir qui on est au fond de nous. On veut nous sonder. On nous refuse cette intimité parce que quelque part, les personnes blanches veulent être rassurées. Moi, je l'ai vécu, hein. J'étais la seule femme noire dans mes espaces de travail. Et je parle d'altérisation parce que j'étais traitée comme une espèce d'accident industriel. J'étais traitée, en fait, un peu comme une espèce de curiosité. On était content de m'avoir sur les photos pour bien montrer qu'on était dans la diversité. Ça n'allait pas de soi que j'existe dans cet espace. Ça n'allait pas de soi que je méritais d'être là. Quand je parle d'identité contrariée, c'est ça. Il n'y a pas de place pour être nous-mêmes au travail.
Olivia, dont on a modifié la voix dans cet épisode, elle est métisse. Et en arrivant dans son entreprise, elle était un peu paralysée. Elle avait peur, par son comportement, de renforcer des stéréotypes sur les femmes noires. En fait, elle ne savait pas qui être au travail.
J'ai appelé Marie, parce qu'à mon arrivée dans cette entreprise, c'était un grand groupe du CAC 40. J'entrais à la direction marketing et c'était la première fois que j'arrivais dans une entreprise de cette envergure. Et je savais que j'allais à la fois me retrouver avec des collègues de milieux sociaux très favorisés et que les personnes non blanches allaient être en minorité. Donc, ce que je me suis dit à la fois, c'est que j'étais très fière de pouvoir arriver dans cette entreprise, que c'était une consécration parce que peu de personnes dans ma famille étaient arrivées dans des entreprises de cette envergure. Et en même temps, j'appréhendais et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, premièrement, tu risques d'être un peu l'erreur de statistique et tu risques de ne pas te sentir à ta place dans cette entreprise. Et j'avais très peur toujours d'être mal coiffée parce que je garde mes cheveux naturels et je me disais, si jamais j'arrive mal coiffée ou j'étais tout le temps en train de surveiller ma tenue histoire de ne jamais avoir quelque chose qui dépasse. Et enfin, je me disais, si tu fais la moindre erreur, en fait, tu vas jeter le discrédit sur toutes les personnes minorisées. J'avais très, très peur d'arriver en retard parce qu'il y a un stéréotype des personnes noires qui sont toujours en retard. Et je me disais, bon, si tu arrives en retard, tu vas encore coller au stéréotype. Donc, j'étais toujours un peu dans une anxiété d'excellence, quoi, de toujours vouloir très, très bien faire pour ne pas me faire remarquer. J'avais demandé à changer mes horaires, arriver une heure avant, pour pouvoir être à l'aise, bien dire bonjour à mes collègues, etc. Je ne vais pas m'autoriser à arriver en retard. Je ne vais pas m'autoriser à avoir la coupe mal faite, les ongles mal faits, la tenue mal faite. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas vocation à représenter une minorité. Mais quand on est la seule femme noire, on se dit, vu que je véhicule avec moi une image qui peut être empreinte de stigmate, je n'ai pas le droit à l'erreur.
Ce dont elle parle, l'universitaire Maboula Soumaoro l'a théorisé sous le nom de charge raciale. un mot inspiré de celui de charge mentale pour les femmes. Cette charge raciale, elle l'explique dans un entretien au journal Le Monde, c'est la tâche épuisante d'expliquer, traduire, rendre intelligibles les situations violentes, discriminantes ou racistes. C'est aussi la manière de modifier son comportement, comme l'a fait Olivia, en fonction des stéréotypes qui sont renvoyés.
Par exemple, moi, Marie, femme noire, quand j'arrivais au travail, j'étais pas seulement Marie. Je représentais toute la noirie. Je représentais tous les noirs possibles et inimaginables. Quand j'arrivais en retard, c'était tous les noirs qui arrivaient en retard. Parce qu'on nous essentialise et parce qu'on a l'impression qu'on est d'un seul bloc. On n'a pas le luxe de l'individualité. Par exemple, si on a une personne au bureau qui s'appelle Géraldine et qui est chiante, on ne va pas dire que toutes les Géraldines sont chiantes. Et on ne va pas se dire « Ah non, 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 je viens de regarder un CV, la personne s'appelle Géraldine, on a dit qu'on n'engageait plus de Géraldine. » Ça n'arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Mais par contre, c'est OK de dire « Ah, Ibrahim, là, on a eu un Ibrahim, il n'était pas top. » Peut-être qu'on ne va plus jamais engager de personnes arabes ou noires.
Et cette violence peut être exacerbée en fonction de l'actualité. Est-ce que le mouvement Black Lives Matter, il a un impact en ce moment au travail ?
Oui, moi je pense vraiment que le Black Lives Matter et tout ce débat en fait sur les violences policières affectent les personnes racisées dans le monde professionnel. Ça les affecte parce que quand on a vu la vidéo de George Floyd, on s'est reconnu, on s'est vu nous-mêmes, on s'est identifié. Donc bien évidemment que ça a un impact sur la santé mentale, et si ça a un impact sur la santé mentale, ça modifie aussi le rapport qu'on a à son espace professionnel. Parce que cette situation des violences policières, c'est un débat qui devient public, c'est un débat sociétal, et c'est un débat sociétal qui a aussi lieu dans les espaces de travail. Ça veut dire que la personne noire ou la personne racisée qui est plus susceptible d'être victime des violences policières doit aussi subir l'injonction à la pédagogie des personnes blanches. Enfin, ce qui s'est passé après la mort de George Floyd, en fait, ce sont des personnes qui arrivent au bureau, elles n'ont même pas encore bu leur café, on leur demande déjà ce qu'elles en pensent. Déjà bonjour, pour commencer. Et il y a aussi tout ce truc, en fait, que vont faire les personnes blanches pour voir de quel côté on se place. Est-ce qu'on est militant ? On va nous demander si on a assisté à ces manifestations. On va vraiment chercher, en fait, à nous sonder. Et ça même, c'est une violence. C'est une violence. On veut nous faire montrer patte blanche, hein, sans mauvais jeu de mots, mais on veut nous faire montrer patte blanche. On veut quand même que l'on chante la Marseillaise en arrivant au bureau pour bien dire qu'on n'est pas comme ces dissidents qui sont en train de manifester partout en France. Donc l'injonction est violente, l'injonction est extrêmement présente, et aussi on veut nous obliger à nous désolidariser alors qu'on partage le combat des personnes qui manifestent. Par exemple, on va être beaucoup questionné sur si oui ou non on est d'accord avec l'action d'Assa Traoré. Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama Traoré qui a été assassinée par la police il y a quelques années déjà et qui continue le combat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire pour se préserver. Donc moi, j'aime bien, en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est une discipline que j'appelle un peu la gênance. La gênance, c'est une vraie discipline. La gênance, c'est un art. Vous maîtrisez la gêne, vous maîtrisez la situation. Et moi, je suis pour lancer des malaises, je ne suis pas pour débattre. Donc si Jean-Mi vous attrape à la machine à café et vous dit tout de suite « Alors, et toi, t'as vu ce qui se passait hier ? Est-ce que t'es allé au manif ? Qu'est-ce que tu penses des violences policières ?» Bonjour Jean-Michel. Alors moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller sur Google et puis de voir ce qui s'y passe, parce que bon, du coup, moi, j'ai pas trop d'avis. Je pense qu'il faut éviter ça. Et puis, on peut lui dire aussi, pourquoi tu me poses la question à moi, du coup ? Qu'est-ce que je peux t'apporter ? Moi, vraiment, c'est quelque chose d'assez étonnant. À quel moment il y a quelque chose d'incompréhensible sur la mort de George Floyd ou la mort d'Adama ? Pour moi, en fait, il n'y a rien de moins ambigu que ça. C'est très clair. C'est très, 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 très clair. Et aussi, je parle d'injonction à la pédagogie parce que c'est vraiment être sommé de devoir débattre ou de justifier son humanité. Quand, par exemple, on débat du cas d'Adama ou du cas de George Floyd à la machine à café, ce n'est pas un débat sur les violences policières qui se pose. C'est le débat de notre humanité. Il y a des personnes qui sont très fragilisées par ce qui se passe. Il y a aussi, j'ai eu des sollicitations par rapport à cette fameuse injonction de pédagogique. On cherche à savoir si la personne est militante. On cherche à la sonder sur ses opinions politiques. Donc oui, j'ai eu énormément de sollicitations par rapport à ça.
C'est quoi en fait l'injonction de pédagogie ?
L'injonction de pédagogie, c'est le fait d'être sommé de s'expliquer sur qui on est et in fine, ce pourquoi on existe. C'est ça l'injonction à la pédagogie. Alors moi, j'ai imaginé un outil qui s'appelle les 300 secondes. Et les 300 secondes, en fait, c'est un outil qui nous aide à gérer les injonctions de pédagogie, qui nous aide aussi à reprendre le contrôle de notre temps. Je pense que le temps, c'est le médium par lequel la domination passe. Si on vous prend du temps, on vous prend vous. Donc l'idée, c'est de pas se laisser embarquer dans des discussions qui, au final, sont mortifères et toxiques. Et moi, je ne suis pas pour la pédagogie éperdue. Moi, je suis désolée. Si une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort d'Adama, qu'une personne en face de moi n'a pas compris l'horreur de la mort de George Floyd, mais honnêtement, on va laisser ça là. L'idée, c'est de s'entraîner à... Moi, j'aime bien le... À chaque fois, je leur dis, vous avez 300 secondes dans la journée, donc ça, pour parer aux micro-agressions. Si vous avez 300 secondes dans la journée pour parer aux micro-agressions, ben ça veut dire que vous n'avez plus le temps de faire des exposés. Ça veut dire que vous n'avez plus le temps de débattre. The clock is ticking. Voilà, on a un petit chronomètre et le chronomètre, il dit « Ah, tu n'as que 300 secondes, donc tu vas devoir te recentrer sur toi et tu vas devoir en fait être assez militaire dans la gestion de son temps. » Par exemple, les 300 secondes, c'est à utiliser sur une journée, c'est pas en une fois. Donc, c'est 300 secondes dans la journée. Par exemple, imaginons que vous êtes sur Twitter ou sur Facebook et que vous êtes en contact avec un post raciste, que vous voyez un post raciste passer. Bah, si vous écrivez à la personne pour débattre, bah, vous utilisez vos secondes. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai que 300 secondes dans la journée, est-ce que j'ai envie de les épuiser dans ça ? Et donc, en fait, ça aide aussi à choisir ses batailles. Ça aide à savoir là où on doit se positionner, là où on n'a pas envie de se positionner. Et ça aide aussi à ce que nos vies ne soient pas que des réactions au racisme, en fait.
Olivia, elle a vécu des épisodes extrêmement violents dans son entreprise, qui illustrent la difficulté à débattre avec des gens qui ne le souhaitent pas et le pouvoir qu'un silence peut avoir.
Le premier, c'était à table, à la pause déjeuner, on était entre stagiaires. Et il y a une de mes collègues, je ne sais pas pourquoi, une stagiaire qui commence à dire « Est-ce que vous arrivez à différencier les Noirs entre eux ?» Alors moi, je n'ai pas répondu. Je disais, qu'est-ce qu'elle va dire ? Et elle dit, non, parce que moi, je n'arrive pas à les différencier. Ils ont tous ce même accent, wesh, wesh, ma sœur, c'est comment ? On ne comprend pas ce qu'ils disent. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Encore les mêmes stigmates, des Noirs qui viennent du même pays d'Afrique, qui ne savent pas parler français, etc., etc. Et je suis rentrée avec ça chez moi. J'étais triste, j'étais frustrée. Et je me suis dit, la prochaine fois, il va falloir que tu dises quelque chose. Quoi qu'il arrive, il va falloir que tu dises quelque chose. C'est pas possible. Et la semaine suivante, un autre de mes collègues, en toute tranquillité, qui là, je sais pas pourquoi, comment c'est arrivé dans la conversation, montre, tu sais, c'était des publicités qu'il y avait à l'époque coloniale. Et en fait, pour promouvoir les savons, les lessives, on mettait un noir sur une affiche qui trempait sa main dans une baignoire de savon. Il ressortait sa main et en fait, il avait la main blanche. Et le slogan, c'était de dire « La lessive est tellement efficace qu'elle rend les noirs blancs. » Ils ont commencé à montrer ça à table et ils rigolaient. Donc la première, je n'ai rien dit. Et puis la deuxième photo, ils voyaient que moi, ça me faisait pas rire. J'étais au milieu de la table, je ne rigolais pas. Et ils explosaient de rire, etc. Et plus ils rigolaient, plus je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je me disais, c'est pas possible quand même, c'est pas possible. Et alors, je leur dis, écoutez, ça me fait pas rire du tout. Et il y en a un qui me dit, oh non, mais c'est bon, hein, on a le droit de rigoler, c'était il y a longtemps, etc. On a bien le droit de rire de ça. Et ça fait que moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont connu la colonisation, c'est absolument pas drôle. Mais encore une fois, j'avais absolument pas envie de leur refaire un exposé. Donc j'ai dit, écoutez, dans ma famille, aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu la colonisation, je vous dis que c'est pas terminé et que c'est pas drôle. Et là, il y a eu un blanc. Pendant 30 secondes, tout le monde était le nez devant son assiette, s'est tu. Et il y a eu un gros malaise, mais bon. J'ai laissé passer et ensuite la conversation a repris et ensuite plus jamais j'ai eu droit à ces blagues-là.
Évidemment, c'est difficile de trouver le bon mode d'action, surtout quand on est minoritaire. C'est difficile aussi de renoncer au débat.
Ah ben oui, quand je dis aux personnes que je coach, arrête de débattre, oh là là, des pleurs. Mais Marie, tu nous demandes des trucs trop durs aussi, mais comment je vais faire? Et après c'est, waouh. Je regagne mon temps. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est qu'en fait, cette question du débat, quand je dis que en fait, in fine, vous débattez de vos humanités, c'est que ces sessions de débat que vous avez sur les choses qui vous touchent sont une occasion pour les personnes dominantes de réaffirmer leur domination. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, Jean-Michel, il vous saisit à la machine à café pour vous sommer de débattre sur Adama ou Georges, vous lui consacrez 45 minutes, vous lui fournissez toute la data, vous lui fournissez plein d'éléments de réflexion, et parce qu'il ne peut pas se remettre en question, il va juste vous dire « Ok, Marie, super ta data, hein, mais il y a des frites à la cantine. » Et vous êtes là, vous ne savez plus où vous habitez. Et vous avez utilisé 45 minutes de votre temps pour convaincre une personne de votre humanité. En fait, le truc, c'est que je pense vraiment qu'il y a un enjeu à récupérer son temps. L'idée, en fait, c'est de se préserver. Il s'agit aussi de se dire que nos énergies, en fait, sont extrêmement précieuses et elles ne sont pas inépuisables. Et je pense aussi qu'il y a déjà la violence de ces images. Pourquoi on s'imposerait la violence d'un débat ? Il ne faut pas oublier que les dominants, il ne faut pas oublier que les personnes blanches face au racisme provoquent des débats pour ne pas provoquer des débats avec elles-mêmes. C'est ça. Les personnes blanches, en fait, ont du mal à se questionner par rapport au racisme, donc elles viennent nous questionner, nous. Mais nous, on ne fait pas partie du problème. Le racisme, normalement, ce n'est pas notre problème. Le racisme, comme dirait Rainy Enolodge, c'est un problème de blanc.
Rainy Enolodge, c'est une essayiste britannique et elle a publié un livre sous ce titre, « Le racisme est un problème de blanc », qui a fait beaucoup de bruit. Dedans, elle documente le racisme structurel et elle traite du privilège blanc. Ce privilège qui consiste à ne pas avoir à penser à sa propre couleur de peau parce qu'elle est considérée comme la norme et qu'elle est valorisée. Olivia, métisse, elle n'a pas ce privilège. Mais grâce à Marie da Silva notamment, aujourd'hui, elle a réussi à se détacher un peu de ce qu'on pouvait projeter sur elle.
En fait, ce qui se passe, c'est que aussi en tant que personne de couleur, enfin en tout cas moi en tant que femme noire, j'ai beaucoup été socialisée à pas m'énerver et à faire de l'éducatif et à dire « Oh, vous comprenez, enfin, à trouver mes mots, compte tenu de l'état de la société, etc. Vous devez comprendre qu'il y a des discriminations en France, blablabla, faire des exposés. » Et à chaque fois, ça ne convainc personne. Ils me répondront toujours « Bah, toi, si tu y es arrivée, pourquoi les autres n'y arrivent pas ?» Et moi, je me retrouve frustrée, triste. Je me sens pas fière de pas avoir convaincu qui que ce soit. Et en fait, la situation n'avance pas. Et ce que m'a expliqué Marie, c'est une règle qu'elle a inventée, ça s'appelle les 300 secondes. Elle nous dit, chaque jour, on a 5 minutes à dédier au racisme. Et pas plus, on n'a pas le temps de faire des exposés, on n'a pas le temps de faire de l'éducation populaire. Là où je suis dans cette entreprise, les gens ont fait des études. C'est les personnes qui ont bénéficié de la meilleure éducation qu'il y a en France. Donc, ils n'ont pas d'excuses à me dire qu'il n'y a pas de discrimination en France, etc. Juste qu'ils n'ont pas envie de le voir. Je n'ai pas à les convaincre. Marie, ce qu'elle m'a conseillé, voilà, donc c'est de me sentir comme si j'étais dans une société post-raciale. Et qu'en fait, avec moi, je n'avais pas amené mes ancêtres, ma famille, etc. Que je pouvais m'autoriser à être un individu. Pas amener avec moi toutes les personnes noires. D'ailleurs, les personnes noires ne m'ont rien demandé. et que je m'autorise à juste être moi-même, plus douter de rien. Je m'autorise à juste être beaucoup plus en paix avec moi-même.
Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production, Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on vous dira pourquoi il faut absolument que vous partiez en vacances. C'est votre cerveau qui vous dira merci. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.
Bonjour, c'est Zoé Delouis. Dans Émotions au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant, Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes aux profils variés, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partis de rien, ils et elles partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien et bonne écoute.
Your personal info, like addresses, phone numbers and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.